Il y a deux façons de détruire le peuple juif, en fait. On peut ou bien le tuer, ou bien on peut lui faire perdre son identité. Peut faire qu'il s'assimile. Par exemple, qu'il perde les caractéristiques, ses caractéristiques, qu'il en adopte d'autres. En 33-45, on a essayé de détruire le clan Israël physiquement. À ce moment-là, on tuait les gens, hommes, femmes, enfants, peu importe. Et il ne suffisait pas même de se convertir, parce que si on avait un ancêtre juif, je ne sais pas à quel degré, ça suffisait pour être considéré comme juif, comme disait Goebbels, c'est moi qui dis qui est juif, quoi. C'est lui qui décidait. Et puis on peut aussi détruire son identité, c'est-à-dire avoir un projet de d'assimilation. Alors cette assimilation, elle peut être provoquée de l'extérieur par des gens qui vont obliger les gens, les juifs, à se convertir. Ou bien elle va venir de l'intérieur, c'est que les Juifs d'eux-mêmes vont choisir de s'assimiler, de se couper des valeurs juives et choisir de vivre autrement, alors que ce soit donc une pression extérieure ou une pression, enfin, ou une volonté intérieure. L'assimilation, par exemple, ou la conversion, c'est ce qui était proposé aux Juifs au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Voilà, s'ils voulaient rester, s'ils voulaient se convertir, ils pouvaient rester en Espagne. Ces deux façons de faire disparaître le peuple juif, en fait, ont existé dans l'histoire du peuple juif bien avant l'Inquisition ou 33-45. La première fois que c'est arrivé, disons, c'est arrivé en Perse. Quand le premier Beth Amikdash a été détruit par Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a exilé les Bnei Israël, il les a transférés en Babel, en Babylonie. Et cet exil-là, on le savait, les Nevi'im avaient dit qu'il allait durer 70 ans. Effectivement, cet exil, d'une certaine manière, il a duré 70 ans. Et puis il a cessé. Ça, c'est un exil c'est-à-dire une destruction, une forme de destruction du clan d'Israël sous forme de d'esclavage, si vous voulez, ou d'exil. C'est une façon physique de ne pas le laisser vivre comme juif, quoi. Pression extérieure. Et puis, quelque temps plus tard, quand cet exil perse a pris fin, les Bnei Israël, qui avaient reçu la permission de retourner en Eretz Israël, les Bnei Israël ont été entraînés par un mouvement mondial qui était l'acceptation sur une grande partie du monde du modèle grec. Après Alexandre le Grand, et là, les Bnei Israël de l'intérieur, la quasi-totalité des Bnei Israël s'est en quelque sorte convertie au modèle grec. On pouvait continuer d'être, on était dans le fameux exil grec, on était sur la terre d'Israël, on avait le Beth Amikdash et on était en exil. On était en exil, le mot exil n'est peut-être pas complètement adéquat de ce point de vue-là, on était en galout, c'est-à-dire on n'était plus chez soi. C'est-à-dire la quasi-totalité du peuple était devenue grec, au sens qu'ils avaient ils avaient accepté le mode de vie, le mode de pensée des Grecs. Le temple, ils ont gardé le temple, mais ils en ont fait un temple grec, avec toutes les valeurs grecques. Et là, il a fallu la révolution, la révolte d'une famille, les Hashmonaïm, qui ont mené une guerre qui a duré des années, avec des hauts et des bas, qui a coûté très cher à cette famille-là, mort. Et finalement, ils ont gagné. Ils ont gagné peut-être pas complètement, mais ils ont gagné suffisamment pour nettoyer le Beth Amikdash. Et quand on a nettoyé le Beth Amikdash, quand on a recommencé à fonctionner normalement, on a réinauguré le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il était à peu près à moitié de sa vie. Les Beth Amikdash, ils ont en gros un petit peu plus de 400 ans de vie. Là, on est à peu près à la moitié. Et ça a donné, Chazal ont fixé la fête de Hanouka quand on est sorti de ce problème grec. Et pour revenir à ce qui s'est passé en Perse, il s'est passé quelque chose de complètement différent. C'est qu'en Perse, les Bnei Israël ont été soumis à une menace qui, bon, Hachem n'a pas pu ne s'est pas réalisée, de solution finale pour prendre le langage d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une destruction physique de tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, le même jour d'ailleurs, le 13 Adar. Et quand on est sorti de cette situation-là, on a fixé la fête de Pourim. Donc, si vous voulez, on peut dire la fête de Pourim, qui est la fête du sauvetage des Bnei Israël, qui étaient à ce moment-là Ils ont été officiellement condamnés à mort. Les lettres étaient parties qui allaient donner au goyim de tout l'empire perse le droit de massacrer les juifs. Ces lettres sont parties, elles sont arrivées. Donc et là, on ne pouvait pas se convertir à quoi que ce soit. On allait être tués. C'est comme la Shoah. Et ce qui s'est passé à Hanouka, si on avait accepté le modèle grec, il ne serait rien arrivé. Il n'y aurait pas eu. C'est tout. Il fallait accepter, c'est tout. Donc, si on se convertissait au modèle grec, c'est un peu comme ce qui a été proposé, la conversion au christianisme qui a été proposé aux juifs en Espagne. Donc un parallélisme. Bon, et visiblement, on n'a probablement pas suffisamment bien écouté les leçons de Pourim et de Hanouka, qui fait que, effectivement, on a eu une deuxième manifestation de ces tentatives de nous détruire, qui, elles, ne se sont pas aussi bien soldées, finalement, que ce qui s'est finalement passé, surtout à Pourim, où on était quitte pour la peur, quoi, finalement. À Pourim, qui a amené finalement, si on peut regarder d'un peu plus près, comment est-ce qu'on a été sauvé? Alors, il faut probablement dire que la mise en place de tout ça, c'est quelque chose qui se déroule chez les Perses, qui a priori, au départ, ne nous concerne absolument pas. Il y a un roi qui s'appelle Ahasvéros, qui a épousé une petite fille de Nabucodonosor. Ce qui fait que c'est elle qui est vraiment l'impératrice, au sens où c'est elle qui descend de celui qui a conquis Israël et qui a exilé les Juifs. Achashverosh lui-même, semble-t-il, il n'est pas tellement sûr de sa situation de roi. Et la Megillah nous raconte que à un moment, dans un festin, alors, au cours d'un festin, Ahasvéros, qui probablement était ou bien sous, ou je ne sais pas, il a ordonné que la reine vienne. La reine, elle avait un festin de femmes d'un côté, et il a ordonné qu'elle vienne chez les hommes, qu'elle vienne, mais qu'elle vienne nue chez les hommes. Son problème, c'était pas la nudité en tant que manque de tsniout. Son problème, c'est qu'il voulait qu'elle vienne sans aucun attribut royal. Il voulait qu'il soit clair qu'elle n'était reine que parce que lui le voulait, qu'elle était sa créature en tant que reine, et qu'elle n'était pas reine parce qu'elle était la petite fille de Nebuchadnezzar, mais uniquement parce que lui, Ahasvéros, le voulait. Et il a joué et il a perdu. Problème. Parce que Vashti, la reine, l'a envoyé promener. Elle n'est pas venue. Et du coup, il était complètement coincé. Parce que s'il réagissait pas, bah, ça veut dire il a vu au, il ou elle, ils ont montré de façon archi claire qui était le propriétaire, qui était le patron. Que le patron, c'était elle, et pas Achashverosh. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Bah, il fallait la tuer. Parce qu'elle a refusé d'obéir au roi. Seulement, ça n'était pas évident de tuer la petite fille de Nebuchadnezzar. C'est sûr que la noblesse, etc., les gens vont pas accepter ça. Donc, il était vraiment perdu. Et le chef des nobles lui a dit, tu peux la tuer, il n'y aura pas de révolte. Et donc il a tué Vashti. Et ayant tué la reine, et probablement qu'il n'y avait pas dans son harem de femmes dont il pensait qu'elle pouvait être choisie comme reine, ben il s'est mis en quête de choisir une nouvelle reine. Et pour ce faire, il a convoqué toutes les jeunes filles, je pense toutes les jeunes filles de la bonne société de la capitale. Je ne sais pas si on est allé chercher toutes les filles du bout de l'Empire. Toutes les jeunes filles, en fait. Et il allait choisir parmi elles celle qui serait la reine. Et voilà que parmi toutes ces jeunes filles, il y en a une qui a été raptée, mais qui n'était pas une jeune fille, qui était une femme mariée. La femme de Mordechai, Esther, et aussi Hadassa, elle a été choisie comme si elle était une jeune fille. On n'a pas compris pourquoi. Et non seulement elle était choisie pour être dans le bataillon de jeunes filles qu'il allait examiner, parmi lesquelles il allait choisir, mais en plus c'est elle qui a été choisie. Pour Esther, pour Mordechai, c'est une tuile. Alors je vous ai dit qu'en fait, le début ne nous concernait pas directement. C'est pas tout à fait vrai. Le fameux festin durant lequel Ahasvéros avait ordonné à Vashti de venir, ce fameux festin, il est pas, il a eu lieu pour la raison suivante. Je vous ai dit que l'Enevim avait dit que le galout de Babel, il allait durer 70 ans. On était arrivé au terme de ces 70 ans, à peu près au terme. Et à ce moment-là, tous les rois, que ce soit Belshazzar, etc., avant Ahasvéros et Ahasvéros, ont essayé de calculer quand étaient les 70 ans. Comme ils ne savaient pas quand ça commençait, ce compte des 70 ans, ils n'ont pas trouvé. Mais Rajverosh, à un moment donné, il a décidé que ça y était. C'est sûr que les 70 ans sont passés et que le Dieu des Juifs n'a pas récupéré ces Juifs, puisqu'ils sont toujours ses sujets. Alors il a décidé que, puisque le Dieu des Juifs n'a pas récupéré ses sujets, alors c'est Nebuchadnezzar qui a gagné, qui a vaincu le Dieu des Juifs en vérité, et que lui, en tant que successeur de Nebuchadnezzar, c'est lui le Dieu des Juifs maintenant. Et par conséquent, il a fait un gigantesque banquet parce qu'il avait accès, il était maintenant lui le Dieu des Juifs. Et tout le monde a été invité, et certains disent que tout était absolument cachère, avec les vins étaient des vins que les Juifs pouvaient boire, etc. Et les Juifs sont été invités, ils sont allés. Ils sont tous allés, sauf Mordechai. Mordechai n'a pas accepté d'être ainsi là comme invité, il a été mobilisé pour servir, partie des serveurs, mais il ne s'est pas assis à ce festin. Et dans la cohérence dans laquelle vivait Achashverosh, puisqu'il était le dieu des Juifs, alors il a décidé qu'il allait manger dans la vaisselle du dieu des Juifs. Et la vaisselle du Beth Amikdash, qui avait été en or, etc., avait été, bien entendu, récupérée par Nebuchadnezzar, dont ils ont gagné la guerre, qu'ils ont détruit le Beth Amikdash. Et donc, il a sorti cette vaisselle. Donc, les Juifs étaient là, à un festin où on a mangé dans la vaisselle du Beth Amikdash. Peut-être pas eux-mêmes, mais à cette table-là, le roi mangeait dans la vaisselle du Beth Amikdash. Voilà ce qui s'est passé, et Esther a été choisie, elle est devenue reine. Alors, ce qui a l'air complètement impossible, c'est que Mordechai lui a dit, tu ne dis pas qui tu es. Tu ne dis rien concernant ton identité. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un roi choisisse une reine sans savoir qui elle est, d'où elle vient, etc.? Alors pour un roi normal, effectivement, c'est impensable. Mais si on se met dans la tête d'Achashverosh, qui lui veut montrer que la reine et tout dans le royaume, tout ça, c'est lui qui décide. C'est lui, il est quasiment Dieu sur terre. Alors il n'a rien demandé. Parce que peu importe d'où elle vient, ça n'a aucune importance. Au contraire, il faut bien montrer qu'elle n'est la reine que parce que lui l'a choisie. Et donc peu importe d'où elle vient. C'est comme ça qu'il était possible qu'une reine soit choisie sans qu'on sache qui elle était. Et le noble qui avait permis à Achashverosh de tuer Vashti, bien entendu, il était en position très très forte contre Achashverosh. Il pouvait lui dire à tout moment, c'est moi qui t'ai fait roi. Tu étais mort si je ne t'avais pas sauvé. Et donc, bien sûr qu'il a un œil sur le trône. Mais bon, il ne peut pas assassiner comme ça le roi. Mais bon, il attend. Et bien entendu, il y a des gens qui veulent, comme toujours, assassiner le roi. Et il y a deux bons hommes qui décident qu'ils vont assassiner le roi, et ils discutent de ça dans une langue dont ils pensent que personne ne la connaît. Et donc, ils prennent pas suffisamment de précautions pour que personne ne les entende. Alors maintenant, il y a une halakha qui dit qu'un tribunal, Sanhédrin, ne peut pas juger quelqu'un Si pour parler avec ce quelqu'un, pour l'écouter, pour comprendre ce qu'il dit, le tribunal a besoin d'un traducteur. S'il y a un traducteur, on ne peut pas condamner. Et par conséquent, dans le Sanhédrin, ils s'étaient répartis la tâche. Il y avait des gens, des petits groupes de gens qui connaissaient à eux tous, ils connaissaient toutes les langues. Et Mordechai, à l'époque, ça s'appelait pas encore Sanhedrin, ça s'appelait Anshe Knesset Hagdola. C'était une assemblée, pas de 70, mais de 120 personnes, dans laquelle il y avait des Nevi'im, il y avait encore des prophètes. Et lui, il en était. Il était de cette assemblée-là, Mordechai. Et Mordechai, il connaissait, il se trouve qu'il connaissait la langue des comploteurs. Et il a entendu qu'il y avait ce complot. Et il a décidé d'en faire part à Esther. Donc il a envoyé quelqu'un dire à Esther qu'il y avait ce complot. Quand Esther a été choisie comme reine, personne n'a compris ce qui se passait, mais tout le monde a compris qu'il allait se passer quelque chose. Alors Mordechai, qui était aux premières loges, Mordechai, lui, il se promenait souvent devant le palais pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce palais pour qu'il puisse expliquer pourquoi Hachem a fait en sorte que Esther soit choisie comme reine de Perse. Et donc il avait mis au point avec Esther, il avait trouvé probablement des serviteurs qu'on a suffisamment bien payés pour qu'ils servent de messagers entre Esther et Mordechai. Et Esther, quand elle a appris de Mordechai qu'il y avait ce complot, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens tuer Achashverosh? On aura peut-être un meilleur roi ou bien ce sera peut-être pire? On ne sait jamais, quand on tue quelqu'un, qui va être remplacé? Est-ce qu'on a fait une bonne affaire? Ils ont décidé qu'ils allaient dénoncer le complot. Et Esther, elle a dénoncé le complot. Elle a dit à Achashverosh, il y a un complot. Et elle a fait ce qui, à mon avis, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, ce qui était une grosse erreur. Elle a dit à Achashverosh que c'est Mordechai qui lui a donné l'information. Qu'est-ce que la reine de Perse a à voir avec le juif qui se balade devant le palais? Elle n'a rien à voir. En disant qu'elle a un lien avec Mordechai, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille à Achashverosh, il aurait pu savoir qu'elle est peut-être juive, alors. C'est vrai qu'elle avait qu'à dire qu'il y a une servante qui m'a dit qu'elle a entendu que. Non, elle a dit que c'était Mordechai. Elle fait une grosse erreur. À mon avis, c'est une erreur énorme. On va voir par la suite. Celui qui a sauvé le roi, il est nommé grand vizir. Et le roi, je ne sais pas s'il a une allergie au sceau, en tout cas, il nomme un vizir, il lui donne son sceau. Le vizir, il va prendre des décisions que lui, vizir, va prendre, et il va les signer à Achashverosh. Il a le sceau d'Achashverosh. Quand il devient vizir, il décide que il faut que tout le monde se prosterne devant lui chaque fois qu'il apparaît. Alors, il y a un décret qu'il faut se prosterner devant lui. Lui, des raisons qui ne me sont pas tout à fait claires pour l'instant. Il se promène aussi avec il a un petit collier avec une idole comme ça. En d'autres termes, ça veut dire il veut être idolâtré. Et tout le monde se prosterne en pensant, bon, on se prosterne devant, bon, il n'est pas le roi, mais bon, presque le roi, donc on se prosterne. Il n'y a aucun problème à se prosterner devant un bonhomme comme ça. Sauf que comme il y a une dimension de d'Avodazara, Mordechai, lui, il se prosterne pas. Et il est le seul à pas se prosterner. Alors, c'est pas évident ce qu'il fait. Parce que il y a une règle générale que les antisémites, quand ils trouvent un juif, même si c'est un seul qui se conduit d'une manière qui ne leur convient pas, ils vont dire les juifs. Et donc, il met les juifs un peu en danger. En fait, il va les mettre bien plus en danger qu'il ne, on peut le penser. Parce que Aman, puisque le noble en question, le vizir, il s'appelle Aman. Aman, il supporte pas ce juif-là qui se prosterne pas. Mais d'un autre côté, il dit, mais moi, je suis le grand vizir. C'est pas mon kavod que je m'oppose, moi, avec ce juif-là. Je peux pas avoir comme ennemi un juif. Ça n'a pas de sens. En vérité, il a un juif, mais il veut pas. Alors il décide, bon alors je vais tuer tous les peuples de ce juif. Et il prend la décision de déclencher une, ce qu'on appellera par la suite une solution finale. Tuer tous les juifs du royaume. Mordechai, il se prosterne toujours pas. Et quand, bon, qu'est-ce qu'il fait pour tuer tous les Juifs? Il envoie des messages dans toutes les provinces, à tous les habitants. Le 13 Adar prochain, vous pourrez massacrer les Juifs. On vous fera aucun reproche. Alors d'abord, c'est secret, puisque c'est envoyer des lettres quasiment personnelles à tous les goyim. Mais bon, Mordechai en a, il l'apprend et il pousse un cri gigantesque de douleur et il met des vêtements de deuil, etc. Et puis, bon, ben, ensuite, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bon, n'oubliez pas, ces décrets sont signés à Achashverosh. Concocté par Aman, mais signé à Achashverosh. Alors Mordechai décide que voilà, c'est probablement il va falloir jouer la carte Esther. On peut peut-être penser que c'est pour ça qu'Esther est devenue reine, pour pouvoir intercéder, parce que personne. Alors il convoque, enfin, il fait savoir à Esther qu'il faut qu'elle aille parler à Achashverosh, le séduire et arracher une annulation de ses décrets. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que j'ai toujours du mal à accepter. Quand il le dit, il lui dit ça. Alors Esther, elle lui envoie un message. Elle lui dit, tu sais, tous les habitants, tous les serviteurs savent très bien que personne ne peut prendre l'initiative d'entrer chez le roi. On ne va chez le roi que si on est convoqué par le roi pour venir. Il n'y a pas de possibilité d'aller chez le roi. Si c'est pas lui, si c'est pas lui qui vous a appelé. Je suis regardé ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. OK. Donc, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce que quand on va chez lui, quand tu entres chez lui, tu es mort. Sauf s'il te touche avec son sceptre en or, à ce moment-là, tu vis. Quelque part, ça veut dire que c'est lui qui te donne la vie. Ce n'est pas que tu as survécu. Tu as vécu et il t'a donné la vie. Tu étais mort et il t'a donné la vie. Et moi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Donc s'il ne m'a pas appelé, c'est que il n'a pas besoin de moi pour l'instant. Je ne sais pas si je suis encore la favorite. Je suis peut-être maintenant, il s'est lassé de moi, peut-être. M'appelle pas. En d'autres termes, elle est en train de lui dire, écoute, je sais pas si c'est une tellement bonne idée parce que, a priori, j'aurais même pas le temps d'ouvrir la bouche, je serais déjà morte. Si moi je prends l'initiative d'y aller, il m'a pas appelé. Si je suis pas vraiment la favorite, bah, il va pas me faire vivre et je vais mourir. Mais j'aurais même pas le temps d'ouvrir la bouche. Alors, Mordechai, en tout cas, il n'a pas entendu ça très légèrement. Moi, je trouve qu'il y a une dimension c'est un procès d'intention, en fait, qu'il lui fait. Ma femme, elle n'est pas d'accord, moi. Mordechai lui dit, surtout, ne t'imagine pas un seul instant, que tu vas pouvoir te planquer le jour où on va tous nous tuer. Toi, tu seras planqué parce que tu es dans le palais. Ça se passera pas comme ça. Il lui dit, Revach, on sera sauvé, ça viendra d'ailleurs, pas par toi. Mais à ce moment-là, toi et ta maison paternelle, là, vous serez mort. On verra ce que veut dire toi et ta maison paternelle. Rappelez-moi si je ne reviens pas là-dessus. On va en dire 2 mots après. Et donc, elle comprend bon, elle entend ce qu'il a dit, et à ce moment-là, le tableau change. Cette femme, qui avait l'air relativement modeste, très snoua, tout ce qu'on veut, à partir de ce moment-là, elle devient le boss. C'est elle qui décide. Le verset d'après, c'est elle a ordonné à Mordechai. Elle lui donne un ordre. Elle lui dit, vous allez tous, tout le monde va jeûner 3 jours, jour et nuit, pour moi. Moi aussi, je vais jeûner 3 jours, et les femmes qui m'accompagnent, tout le monde va jeûner 3 jours. Et après cette préparation-là, cette unité du peuple, y compris avec moi, forte de cette unité, je représente, voilà, des gens qui comprennent que c'est fondamental. J'irai. Et arrivera ce qui devra arriver. Alors elle, voilà. On peut penser que c'est pas la meilleure préparation pour aller séduire le roi que de venir après 3 jours de jeûne. Mais bon. Elle est allée et elle s'est présentée et il l'a fait vivre. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donne. Voilà, tu peux avoir ce que tu demandes. Et je pense qu'elle ne s'y attendait pas, tellement pas qu'il allait dire oui, qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle se sent pas d'exposer la raison de sa visite, de ça. Alors, il faut qu'elle réponde quelque chose. Alors, elle dit, ça me ferait extrêmement plaisir si tu voulais bien venir demain. Demain, je donnerai un pot pour toi. OK, elle l'invite à venir demain. Seulement, on ne sait pas pourquoi, elle invite aussi Aman. Alors, Rajveroche, quand il est dans son lit, la veille du jour où il va la rencontrer, et il se demande pourquoi elle a invité Aman aussi. Elle est venue me voir, c'était une relation, c'était pour un truc intime. Pourquoi elle l'a appelé lui? Pour tenir la bougie? C'est quoi? Il comprend pas. Et il comprend tellement pas qu'il n'arrive pas à dormir. C'est vrai que c'est incompréhensible. La Megillah ne nous explique pas du tout pourquoi elle a eu cette idée d'inviter aussi Aman. Il est dans la nuit, là, il n'arrive pas à dormir. Il sait pas quoi faire. Alors il appelle, il a un lecteur. Bon, qu'est-ce qu'il peut lire? Il lui dit, lis-moi les archives. Et lui, les archives. Alors il faut dire que le lecteur en question, Aman, il est déjà complètement noyauté. Le lecteur, c'est un fils d'Aman. Et alors, c'est lui qui va lire. Il prend les archives, il ouvre, et il tombe sur le morceau où il est raconté que Mordechai a sauvé la vie du roi. Et lui, il est le fils d'Aman. Il veut chercher autre chose. Il ne veut pas rappeler Mordechai, ça marche pas, c'est ils sont, je sais pas, donc ça retombe tout le temps sur là. Le roi. Il dit alors tu lis ou quoi? Alors, il lit, il est obligé de lire. Alors il lit le roi. Mordechai a sauvé la vie du roi. Alors le roi demande et qu'est-ce qu'on lui a fait comme récompense, donné comme récompense d'avoir sauvé la vie du roi? Rien, il n'a rien reçu. Je suis le roi, il faut que je le récompense. Mais il n'a aucune idée de ce qu'on pourrait donner à quelqu'un d'autre. À quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Il faut quand même, je vais pas lui donner une sucette, je veux dire, il a sauvé la vie du roi. Mais qu'est-ce qu'on peut lui donner? Louis XIV, tu dirais, il aurait su. Bonsoir, merci. Louis XIV, il aurait su quoi lui donner. Lui, il ne sait pas. Et quand il ne sait pas, c'est Achashverosh. On est au milieu de la nuit. Il hurle. Qui est dans l'antichambre? Comme s'il y avait quelqu'un dans l'antichambre au milieu de la nuit. Mais dans l'antichambre, il y a Aman. Pourquoi Aman est au milieu de la nuit dans l'antichambre? C'est parce que Aman, quand il a appris qu'il était choisi, qu'il est invité, etc. Alors il dit, il rentre chez lui, il raconte, il dit, c'est extraordinaire ce qui m'arrive et tout. Seulement, chaque fois que je sors de chez moi et que je vois ce juif Mordechai qui se prosterne pas devant moi, c'est insupportable. Alors sa femme lui dit, mais arrête de nous casser les pieds. T'as qu'à dresser une potence de 25 mètres de haut. Et pend-le, ce juif. Ah, bien, c'est une super bonne idée, je vais aller demander la permission au roi. Alors, Zeresh, sa femme, elle lui dit, ah, fais attention. Il faut, si tu veux ça, il faut que tu sois le premier à parler demain matin au roi. Parce qu'avec les Juifs, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un Juif qui va venir, qui va lui rendre un service au roi, et après, tu ne pourras pas demander la tête d'un Juif. C'est pas possible. Donc, il faut que tu parles le premier. Pour être sûr d'être le premier, il est parti au milieu de la nuit, il s'installe dans l'antichambre. Je pense qu'il y avait du café et tout. Bon. Alors, il entre. Et le roi lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qu'on veut, que le roi veut honorer pour quelque chose de très important, qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse? Alors, la Megillah, elle dit que Haman, il pense, dans ce pays, qui est-ce qui est honorable? C'est moi. Donc, il réfléchit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il pense que l'honneur, c'est pour lui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il. Il est grand vizir, il peut faire, il a tous les moyens, je pense qu'il n'y a rien qui lui résiste, il peut prendre ce qu'il veut, lui, fond, au fond, il veut le trône. Alors il dit, il faut prendre le cheval du roi, avec toutes ses décorations, et des habits royaux, et on va habiller cette personne qu'on veut honorer. On va la mettre sur le cheval du roi et il va marcher au pas et quelqu'un de d'important va crier. C'est comme ça que on honore le roi que le veut, que on honore les gens que le roi veut honorer. Qu'est-ce qu'il va gagner avec ça? Il va gagner que le roi, personne ne le connaît. Quand il passe à toute vitesse sur son cheval ou dans son carrosse. Les gens ne connaissent pas sa bouille, ils ne connaissent pas sa tête. Lui, il va passer maintenant. Pardon?
Sur une pièce, ce n'est pas
Sur une.
pièce.
Je ne sais pas, en fait, ça ne permet pas de reconnaître obligatoirement. En tout cas, lui, il pense que si les gens le voient au pas, donc, on aura largement le temps de voir la tête qu'il a, et les gens vont s'habituer à voir les ornes, c'est pas le roi, mais vont s'habituer de voir ce visage avec les attributs royaux, en quelque sorte. Et quand il arrivera où ce qu'il est le roi, il n'aura pas de difficulté à se faire reconnaître comme tel. OK. Le problème, on va chercher Mordechai. Mordechai, ce n'est pas un grand cavalier. Le cheval du roi, c'est un très grand cheval. Il sait pas monter à cheval. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Il essaye de lui donner, l'aider et tout. Mais ça marche pas. Finalement, tout ce qu'il trouve à faire, c'est qu'il faut que Haman se couche par terre et Mordechai va monter sur lui. Donc, ça va le surélever. Il va pouvoir monter sur le cheval. Alors c'est comme ça. Donc Haman est obligé de se coucher, Mordechai grimper sur lui pour grimper sur le cheval. Et après il se balade et sa fille, il fait un peu soir, sombre, elle voit pas, mais elle est sûre que sur le cheval, ça ne peut être que son père et que si c'est son père qui a malgancé, c'est très bien que le type qui est obligé de crier, voilà, etc. Ça doit être Mordechai, l'ennemi de son père. Donc elle lui balance aux chambres ou aux poubelles ou je sais pas quoi sur celui qu'elle prend pour être Mordechai, mais il se trouve que c'est Haman. Et donc quand sa fille elle se rend compte de ce qu'elle a fait à son père, elle se suicide. Et donc il arrive complètement chez lui, à moitié mort. Il a à peine le temps de se débarbouiller un peu. Arrivent les gardes qui lui disent, il faut te dépêcher, c'est le rendez-vous chez Esther. En fait, c'est court, mais c'est le deuxième rendez-vous. Parce que au premier rendez-vous, Esther, elle ne savait toujours pas ce qu'il fallait dire. Elle lui a dit, Tu reviens demain et demain je te dirai. Et donc Aman, il était aux anges, ça veut dire non seulement aujourd'hui je t'ai invité, je vais m'inviter demain. Mais bon, ça a commencé à tourner avec l'histoire du cheval. Il arrive chez Esther avec le roi. Et le roi redemande à Esther, qu'est-ce que tu veux? La moitié de mon royaume, etc. Alors, du coup, elle est obligée, elle commence à parler, elle dit, si c'était que des questions d'argent et tout, j'en aurais même pas parlé, mais il y a quelqu'un qui est en train de vouloir me tuer, de tuer tout mon peuple, etc. Alors, Ahasvéros, il dit, mais c'est qui ce type? Qu'est-ce qui peut penser une chose pareille? Alors, je vous dis ce que le Midrash dit. Le Midrash, il dit que Esther, elle n'a pas répondu au roi. Elle a montré du doigt qui était le fautif. Seulement Esther, je ne sais pas pourquoi, mais Esther, est-ce qu'elle savait? C'est qu'il y avait des décrets signés à Ahasvéros, qui étaient des décrets qui permettaient de tuer les Juifs. Donc, quand elle pointe du doigt, qui est le point du doigt? Ahasvéros. Vous imaginez ce qui serait passé? À ce moment-là, Aman, il aurait tué Ahasvéros parce que tu es en train de détruire tout un peuple. Et à ce moment-là, Aman, il sait qu'elle est juive, donc il va la tuer elle aussi, et il a qu'à laisser courir les choses. Les décrets à Ahasvéros sont signés, et les juifs vont être éradiqués complètement. Alors, il y a le malheur Gabriel qui est venu, qui a détourné son bras, et elle a pointé Aman. Aman, il a essayé de se jeter aux pieds de la reine etc. Et après, il y a Harbona qui est venu, qui a dit, Ah, Aman, c'est le type qui a fait la potence pour y pendre Mordechai, qui a sauvé la vie du roi. Alors, le roi, il a dit, pendez-le à la potence en question. Et on a pendu Aman. Ok, alors Esther a expliqué à Ahasvéros qui était Mordechai, et il a nommé Mordechai grand vizir, et il lui a donné le sceau. Alors Mordechai a dit à Ahasvéros, il faut annuler les décrets là, contre les Juifs. Alors Ahasvéros a dit, on ne peut pas annuler les décrets. Les décrets que j'ai pris sont définitif. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, le seul moyen, c'est de faire un contre-décret. C'est-à-dire, on va envoyer des lettres aux Juifs, scellées par le roi, leur disant qu'ils ont le droit de tuer les goïms qui voudraient essayer de les tuer, et qu'ils peuvent prendre des mesures préventives. Et donc on a fait ça. Et effectivement, les Juifs ont tué pas mal de goïms qui voulaient les tuer. Alors, Esther et Mordechai ont décidé que on allait faire une fête, Pourim, fête de Pourim. Et alors il s'est passé la chose suivante. Quand les Juifs ont été sauvés, alors il y avait deux sortes de Juifs. Il y avait des juifs qui vivaient proches des goïms, dans des villes avec des murailles, etc. Donc ils avaient des voisins goïs, etc. Et ces gens-là, ils ont dit, en vérité, nous, on n'était pas vraiment en danger. Nos goyim à nous, ils nous auraient jamais fait de mal, etc. Donc, ils voulaient pas participer à Pourim. Alors, Esther et Mordechai, ils ont envisagé de faire une fête de Pourim pour les gens qui, et eux, ils seraient exclus de Pourim. Ils ont dit, on peut pas casser le clan d'Israël comme ça en deux. Mais on va quand même marquer le coup. Et donc ces gens-là qui ne voulaient pas faire Pourim, on a dit, vous ne ferez pas Pourim avec tout le monde. Au lieu de faire le Pourim le 14, vous ferez le Pourim le 15. Et la caractéristique de ces gens-là, c'est que quelque part, ils étaient dans des condominiums ou dans des endroits relativement fermé avec des goïms. Donc ils pensaient que c'est sûr que ces goïms, ils vont pas nous faire de. Après coup, tu peux dire tout ce que tu veux. Et c'est pas vrai qu'ils n'auraient pas fait, mais bon. Très actuel, si on avait demandé aux gens des kibboutzim du Sud. Est-ce que les gens de Gaza vont faire du mal? Non. Hier, on a amené leurs enfants dans les hôpitaux, etc. Pas du tout, ils ne vont pas nous faire de mal. Alors, l'histoire, c'est qu'on a dit que les villes qui avaient des murailles, mais des murailles qui datent d'avant la conquête d'Eretz Israël par Yoshua. Ces villes-là, elles feront Pourim le 15. Pourquoi on a pris cette référence à la conquête par Yoshua? Enfin, je ne sais pas, j'ai entendu, enfin, non, j'ai lu que Rabbi Sheber de Boston, il a dit que probablement, dans toute cette histoire de Pourim, on ne parle pas du tout d'Eretz Israël. Pas du tout, il n'y a pas un mot d'Eretz Israël. Alors, on a voulu rappeler quelque chose d'Eretz Israël par ce biais-là, en parlant des murailles qui datent de Yoshua. C'est-à-dire qui date de la conquête d'Eretz Israël. C'est un petit remèze, un petit. Moi, j'aurais dit autrement. J'aurais dit la chose suivante. Mais ça, ouais. L'histoire, c'est comme ça. Avant que des gens construisent une muraille pour une ville, alors il fallait que chacun, quasiment, chaque petit personnage qui avait des terres ou je sais pas quoi, il fallait qu'il se construise sa propre muraille pour se défendre contre d'éventuels agresseurs. Et donc, être capable de penser qu'il faut se mettre ensemble et si on fait une muraille, elle sera plus forte, plus beaucoup plus protectrice que des murailles, petites murailles comme ça, autour de chacun. Et donc, ça veut dire, c'est d'avoir compris la notion de collectivité. Montrer que c'est important d'être solidaire, en quelque sorte. Et en fait, la raison pour laquelle on a pris cette référence de Yoshua, Ça veut dire que c'est les gens qui avaient compris ça avant qu'on leur amène la Torah. Avant que Yeshua vienne et qu'il enseigne la Torah à des goyim, quoi. Et les villes, c'est pas obligatoirement des villes juives. C'est des villes, toutes les villes. Shushan, c'était une ville comme ça, entourée. Et donc, ça veut dire que des gens qui ont compris l'importance, ont compris la nécessité de la solidarité, etc., c'est une leçon pour ces gens qui ne voulaient pas être solidaires, qui faisaient comme si, bah, nous, on n'était pas concernés parce que nous, on avait des bons goyim, ils nous auraient rien fait. À part le fait que ce n'est pas vrai, mais même si c'était vrai, tu dois être solidaire des autres. Alors on va remercier. Tu peux te joindre à ce remerciement. Qu'est-ce qu'ils avaient peur? Qu'on leur... ben, il y a un impôt sur... qu'il y a un impôt sur les crécelles ou quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils avaient? Quel était le problème? Alors je pense que c'est ça l'idée. C'est une référence des gens qui avaient compris par eux-mêmes avant. Avant la Torah, ils avaient déjà compris la solidarité, la nécessité de la solidarité. C'est ça le remèze. Alors pourquoi? Bon, c'est avant la Torah, quoi. Quelque chose qui est, il y a quelque chose qui vient avant la Torah même, espèce de derech eretz shekadma la Torah. Il y a des comportements qui normalement sont les comportements qu'on devrait avoir même si on n'a pas la Torah. La solidarité est en est un.
C'est pas de la conquête, une comparaison de l'image qu'on a, c'est des rétro. Là, pour le coup, c'est pas du tout positif. Mais que avec les murales.
Bah, eux, pour eux, ils ont fait des murailles. Les goïms, ils avaient compris l'importance de faire des murailles. Donc c'est positif pour eux que ça n'a rien à voir avec nous. Les Bnei Israël ont fait la guerre aux villes fortifiées, aux villes qui n'étaient pas fortifiées. Mais qu'eux, ils ont compris l'importance de la solidarité qui fait que on va se mettre ensemble pour construire une muraille collective. Je pense que c'est malheureux. Mais bon, j'en sais pas plus. La fin de la Megillah, elle est étrange parce qu'elle parle de... Ça n'a pas sa place, c'est un morceau de l'histoire perse. Et ça termine par... le roi, il a profité pour inventer un nouvel impôt. Donc ça, on voit comme ça qu'il règne. On est revenu aux choses normales. Alors, je voulais dire une chose sur Atobet Avir. Il lui a dit Revarva, on va être sauvés, et toi et ta famille, vous serez. Premièrement, quand il dit Beit Avir, la maison de ton père, rappelez-vous, Esther, elle est orpheline de père et de mère. Et c'est son oncle. Mordechai, c'est son oncle. Il est devenu son mari. On peut épouser sa nièce. Pas épouser sa tante, mais on peut épouser sa nièce. Et donc, il a épousé sa nièce. Et la famille de son père, c'est lui. Donc, il est en train de dire, toi et ta famille, vous serez perdus. Mais c'est lui, la famille. Il n'y a pas d'autre famille que lui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Chazal explique que Shaoul, il a fait une faute. C'est que, comme vous savez, il a fait une guerre contre Amalek et il aurait dû détruire complètement Amalek. Et il n'a pas tué le roi. Sur le chantier, sur le champ de bataille. Il l'a fait prisonnier, mais il ne l'a pas tué. Et il n'a pas tué non plus tous les animaux. Avec l'idée que Je vais amener les animaux et on va faire des corbanotes pour Hachem. Et le roi, on va le tuer publiquement avec une grande pompe. Et alors, Shmuel, qui aimait beaucoup Shaoul, mais qui était complètement triste, parce que Shaoul s'était vraiment disqualifié, il lui a dit, est-ce que tu crois qu'Hachem, il préfère des corbanotes ou il préfère que tu obéisses à ce qu'il t'a dit? Et là, Shaoul vient de comprendre, à ce moment-là, qu'il avait failli, alors que Shaoul, c'était un type parfait. En général, à la limite, quand on lui parle, il comprend pas du tout qu'il a fait une faute jusqu'au bout. Il comprend pas en quoi c'est une faute. J'ai pas tué, mais j'ai voulu faire mieux. Au lieu de les tuer, de les massacrer, je vais faire des corbanotes. Alors, est-ce qu'on veut, c'est pas mieux? Ou alors, comme il dit, le roi, je vais pas le tuer comme ça. En passant, on va faire une grande cérémonie où on va le tuer. C'est important. Bon, il n'a pas compris. Et eux, Esther et Mordecaï, ils sont de la même tribu que. Ils sont les descendants de Shaoul. Et donc, eux, ils doivent réparer la faute de Shaoul. Comme Aman, c'est Amalek, donc de tuer Amalek, d'éradiquer Amalek sur place, c'est une façon de réparer la faute de Shaoul. Donc c'était fondamental que ça passe par eux, que ça passe par elle, Esther, parce que si ça passe par Esther, alors on n'aura pas, quand il dit toi et ta famille, ça veut dire toi et Shaoul, enfin, toute la lignée de Shaoul qui a fauté en quelque sorte. On n'aura pas réparé. Vous serez mort pour une deuxième. Comme si, du coup, Shaoul serait vraiment mort sans avoir été réparé, alors qu'il a la possibilité ici d'une réparation. Voilà. On s'arrêtait là.